Star Wars en direct vous est présenté par SiteClan.net, MintInbox.net, StarWarsUniverse.com et CamuliWeb.com.
Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Star Wars en direct, édition The Clone Wars. Dans cette 33e émission, nous allons discuter du 16e épisode de la seconde saison de The Clone Wars, Cat and Mouse. Voici un petit synopsis de l'épisode. Obi-Wan et Anakin doivent délivrer du ravitaillement sur Christophe VI, tandis que la planète se trouve sous contrôle séparatiste. C'est alors qu'ils rencontrent le commandant séparatiste et amiral Trench, et vont combattre plus qu'ils ne l'espéraient. Il a été écrit par Brian Larson, et réalisé par Kaiden Levy. L'équipe de Star Wars en direct a commenté cet épisode, et voici notre discussion. Bonjour tout le monde, nous voilà pour revenir pour une nouvelle émission. Donc, Louis veut passer en premier, salut Louis.
Salut les geeks.
Et Thomas, salut Thomas.
Salut.
Alors, tout le monde a vu l'épisode?
Oui.
Donc, on va tout de suite passer à la petite phrase, comme ça, ce sera fait.
Une phrase philosophique, elle nous dit.
Donc, je l'ai traduite par un leader intelligent sait quand il doit suivre.
A wise leader knows when to follow. Thomas, c'est à toi.
Dans la version sous-titrée, c'était un leader judicieux. Wow. Donc, bien entendu...
Et quand il doit suivre, dis-le jusqu'au bout.
Alors, bien entendu, on parle de Anakin. Va-t-il suivre les ordres de ce que son maître... Elle n'est pas très française, ma phrase, là. Va-t-il suivre les ordres de son...
Et ça se dit prof, hein.
Va-t-il suivre les ordres de son maître ou pas?
Ah ouais, mais ça, c'est sûr, il n'est pas prof de français, hein.
ton interprétation, toi, Louis?
Il n'en a pas.
Ah non, moi, j'en ai pas, les phrases pseudo... Les phrases pseudo-philosophiques, c'est bon, quoi. J'ai décidé d'arrêter.
Moi aussi, j'y pense plus, je fais le truc, je fais la traduction.
Donc, je vous l'avoue, je suis prof de philo, c'est pour ça.
T'es préposé, toi.
T'es prof de philo. C'est du Baudelaire, là-dedans.
Donc, on passe au-dessus de notre première partie?
Oui, on va faire comme d'habitude. On va d'abord parler du scénario et après parler du visuel. Bon, je sais pas pour vous, mais personnellement, j'ai pas grand-chose à dire. Le scénario, on se retrouve encore à Christophe VI. Donc apparemment, c'est un épisode qui se passe au tout début de la guerre des clones et juste avant la bataille de Christophe VI.
Ouais,
donc juste avant le film.
Ouais, donc mais pour remettre les gens en ordre, on peut dire que on peut d'abord, si les gens veulent regarder toute la bataille de Christophe VI, pour l'instant, ils doivent regarder cet épisode-là, Cat and Mouse, et ensuite... The Hidden Enemy qu'on a commenté lors de la saison 1, puis après le film.
Ah bon, vous noterez quand même que si vous voulez pas vous faire chier, vous regardez seulement cet épisode parce que tout le reste c'est de la daube, hein.
Ouais, celui-là au moins j'ai vraiment très apprécié cet épisode-là. Bon, j'en parlerai plus tard, mais... Donc voilà, sinon question côté histoire, je pense qu'on peut parler de la présence de Bail Organa, ça m'a surpris.
Ouais, et ben...
Qu'est-ce qu'il fout là?
Exactement.
Non mais ce gars-là, c'est le sénateur, il se retrouve en pleine guerre des clones comme à l'ancienne, là, il faut vite venir m'aider, mais qu'est-ce qu'il fout là, quoi?
On dirait que c'est plus un général qu'autre chose, finalement, il guide les troupes, ouais les gars, et tout, on est en retrait. Il est sur le front, en plus, parce que toi, même le général, il est un peu en retrait, que là, c'est carrément un sénateur, il vient sur la guerre, mais il est au front, quoi.
Exactement.
Et en plus, il vient d'Alderaan, qu'est-ce qu'il fout sur Christophe VI, quoi?
Alderaan, merci.
Non mais là, on attendait à ce qu'il donne une explication qu'on n'a pas eue, quoi.
Bah, ils s'en foutent, hein, les gens, les scénaristes. Hein.
Ah, peut-être que dans la saison 3, on aura l'épisode avant quand Bail Organa il arrive sur Christophe VI.
Ouais, non mais si, ils vont nous faire chier avec un épisode par saison sur Christophe VI, quoi.
C'est la planète de The Clone Wars, c'est un peu, quoi.
Mais en tout cas, j'ai l'impression que la bataille de Christophe VI a réuni tout le monde. Il y a Bail Organa, il y a Anakin, il y a Obi-Wan, il y a l'arrivée d'Ahsoka. Dans le film, on voit Yoda qui se déplace, on se demande pourquoi.
Pour présenter Ahsoka.
Oui, mais bon, il n'est pas forcément obligé de se présenter. Hein. Elle est arrivée de son côté, Ahsoka, il n'avait pas besoin de se présenter plus. Hein.
Ouais, tu parles d'un événement présenté à Ahsoka.
Non, n'empêche, c'est vraiment la bataille après Genosis où il y a tous les personnages, ils sont réunis, on se demande vraiment pourquoi cette bataille est aussi importante. On a même vu dans Hidden Enemy, il y a aussi la présence de SH-23 qui m'avait choqué déjà à l'époque.
Ouais, et puis alors Hidden Enemy, bonjour, c'est l'épisode le plus pourrable de toute la saison 1.
Même en saut de Jar Jar.
Laisse-moi finir, sans compter les épisodes avec Jar Jar.
Ah, quand même.
Oui, non, mais voilà. Je veux dire, c'est l'épisode le plus pourrable de ce qui est potable. Enfin, de ce qui est potable, je veux dire, de ce qui a été réfléchi. Parce que les épisodes avec Jar Jar, les mecs, ils ont pris des lobotomisés pour faire les scénarios, quoi.
D'ailleurs, on peut dire qu'on est heureux de ne pas l'avoir vu encore dans la seconde saison, et apparemment, il apparaîtra pas du tout.
Ouais. Ah, bah, ouais. J'espère que Dead Filoni a compris, parce que ça a dû gronder, les gens ont dû dire que c'était quand même un peu de la merde.
Faut dire aussi qu'avoir changé la voix du... En plus, déjà le personnage, sa voix est un peu ennuyante, mais avec le nouvel acteur qu'ils avaient pris pour lors de la saison 1, c'était vraiment une voix horrible, encore pire. Mais bon, on n'est pas là pour retourner sur Jar Jar. Donc, question... toujours dans l'histoire, peut-on parler de l'Amiral Trench?
Oui.
Ou on va le garder pour le visuel? Non, pardon.
Moi, je pensais le garder pour le visuel. Ceci dit, on notera simplement que c'est bien d'avoir mis encore un nouveau général séparatiste, mais que il crève et que donc on ne le retrouvera pas à long terme.
Comme par
hasard. Ça, c'est vraiment maladif dans cette série, c'est qu'ils sont incapables de garder leurs méchants. Sauf les plus pourris, style Hondo Onaka, les trucs qu'on en a rien à secouer, quoi.
Et c'est vrai que c'est assez surprenant parce que là il est quand même assez bien foutu, je veux dire ils ont dû passer un bout de temps à le modéliser le personnage et ils le font claquer, ils l'utilisent quoi un épisode de 20 minutes, après on n'en reparle plus. Alors qu'ils ont tendance à toujours réutiliser les personnages qu'ils ont créés, alors
non.
Bizarre quoi.
Non, ils les réutilisent pas souvent. Hein.
Si tu veux, tu sais les souvent là les Jedi qu'on voit, c'est toujours des Jedi qu'on a eu dans les épisodes précédents quoi.
Ah non, mais quand tu dis les réutilisent souvent, c'est que tu les vois 5 secondes et il y a que toi qui fais attention à ça. Mais je veux dire ils les réutilisent pas en termes de personnages principaux.
Non, mais par contre là j'ai pas encore lu le roman Stealth de Karen Miller, mais apparemment est-ce que d'après le résumé de quatrième de couverture, on retrouve le personnage de Lockdurd. Le gros némoïdien de la saison 1.
Ah, d'accord. Ouais, qui était avec les petits Lurmen, là.
Ouais, voilà.
On va le retrouver dans The Clone Wars ou dans les romans?
Dans les romans.
Dans les romans.
Ah, mais on en a rien à secouer, des romans.
Non, je sais, mais au moins.
Non, c'est bien.
Déjà, comment tu fais pour aller lire des trucs comme ça, quoi? Déjà que la série est des fois complètement courable, il faut avoir la volonté d'aller lire des romans The Clone Wars, c'est pas possible.
Ah, moi, les romans Star Wars, je les lis tous, seul.
Ouais. Bah, génial, bah, tu dois pas te faire chier.
Je suis bien parti pour aussi, même si j'ai du retard.
Il y a pas mal celui-là, mais en tout cas, on il montre que même, au moins l'avantage des romans, c'est que justement, ils peuvent se resservir des personnages qu'on voit plus dans la série.
Génial.
Ah, on leur donne un peu plus de poids.
On aimerait bien qu'ils l'utilisent dans la série.
C'est sûr, mais je me souviens que t'avais bien aimé ce personnage. Au moins, ils ont eu l'idée de le réutiliser dans le roman.
Ils auraient pu quasiment
le faire passer à la trappe et ne plus en faire mention du tout.
Et par contre, ça t'a pas embêté encore une fois qu'on ait une nouvelle race, parce que apparemment, donc l'amiral Trench, c'est un Arch, on l'a jamais vu quoi.
Oui,
donc
la réflexion.
Et c'est rigolo parce que la race, donc en anglais araignée, donc Arachnid, c'est assez marrant quoi, je trouve.
Oui, Arachnid.
Ah bah, excuse-moi. Je suis prof de philo, je suis pas
non,
prof d'anglais.
Bon, hein. Non mais t'es pas prof de philo.
Si, je suis prof de philo.
Non, c'est pas possible. Non! Tout mon univers s'écroule, quoi! Il va nous foutre du camp, bientôt.
Non, mais sinon, l'histoire se résume très simplement, en tout cas, pour cet épisode-là.
Ouais, voilà. Donc, il y a un blocage, un blocus fait par Trench et les séparatistes, qui est d'ailleurs assez imposant. Et pour essayer de passer, ce blocus, ils vont utiliser un vaisseau furtif.
Ouais.
Ce qui, en soi, est une assez bonne idée. C'est vrai que des vaisseaux furtifs, on n'en voit pas tous les 4 matins. Le dernier qu'on a vu réellement, c'était celui de Dark Maul.
Et il y en a eu... Dans la main de Throne, ils en ont pas aussi des vaisseaux furtifs?
Je m'en souviens pas, mais... En tout cas, je sais que, justement, ils ont fait toute une partie sur ça, enfin... c'était le sujet du commentaire audio de par Dave Filoni de cet épisode-là, c'est qu'il expliquait justement, c'est que dans l'épisode 5, je sais pas, Thomas, tu l'as vu le commentaire ou quoi?
Vas-y, dis-moi, je te dirai.
C'est le commentaire où justement Dave Filoni explique que dans l'épisode 5, quand le Faucon Millenium disparaît derrière le Destroyer, il, justement, je crois que c'est, comment il s'appelle l'amiral, là, qui se fait étrangler.
Ah, il dit, c'est peut-être un vaisseau furtif.
Il dit que, il y a un gars qui dit un vaisseau de cette taille n'a pas de manteau d'invisibilité. Là, justement, ouais. Filoni expliquait, c'est justement pour un peu surprendre, justement, ils font la réflexion, et on espère les surprendre parce que d'habitude, ces genres de vaisseaux n'ont pas de manteau d'invisibilité.
Donc, mais d'ailleurs, officiel.
Le problème, ouais, c'est que, ouais, vas-y. Non, justement, c'est après, le problème, c'est que quand on y pense, le vaisseau de Dark Maul était plus petit.
Et celui-là, il est gros, là, hein.
Il est beaucoup plus gros, ouais. En plus, il est plus long que le Faucon, mais après, faut voir. Mais en tout cas, le vaisseau de Dark Maul était minuscule à côté. Donc, déjà, à l'époque, ça aurait dû étonner.
Mais le fait, si tu veux, qu'il parle en plus des vaisseaux furtifs dans la saga, au moins, ça officialise cette existence. Ça évite qu'on dise, ah oui, tiens, ils ont inventé ça. Non, effectivement, c'est une technologie qui est bien propre à la saga, quoi. Ben, parce qu'en plus, c'est cité dans la trilo, quoi.
Ouais, mais on en parlait tellement peu, on en a tellement peu montré que moi, au début, ça m'a surpris. Quand je l'ai vu dans cet épisode-là, je me suis dit, quoi, un vaisseau invisible, tu vois, j'étais vraiment étonné, mais après justement, c'est en voyant le fameux commentaire de Filoni, je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'ils en parlent pour le
d'ailleurs, Obi-Wan, il précise que c'est quand même un prototype, donc ouais. Peut-être que c'est un prototype du fait que, du furtif, ils en ont jamais fait sur de l'aussi gros vaisseau, quoi.
Ça, c'est sûr, oui.
D'ailleurs, il se pose des questions. Est-ce qu'on est vraiment invisible? Je sais pas si vous avez vu, quand il passe le blocus, il voit les droïdes vautours qui arrivent, ils se disent, est-ce qu'on est vraiment furtif ou pas?
C'est pas des vautours, c'est des bombardiers Yéna.
Ouais.
Ah, autant pour moi, alors.
C'est une version modifiée des vautours.
Merci pour cette précision. Et il me semblait que dans la main de Throne, au tout début, ils en avaient justement des vaisseaux furtifs.
Moi, c'est tellement longtemps que j'ai pas...
Non, dans la saga de Throne, ce qu'ils utilisent, c'est des systèmes de camouflage pour les météorites, les astéroïdes ouais. Qui délivrent à côté de Coruscant.
Dans les deux derniers, hein, pas la trilo, quoi. La main de Throne, hein.
Je sais plus ça par rapport aux comics, hein, moi.
Non, bah non, ils les ont pas fait en comics. C'est les deux derniers juste avant le Nouvel Ordre Jedi, en fait.
Ah, donc, c'est pas la trilo, donc c'est...
Non, c'est la main de Throne. Ouais. Tu sais, c'est les deux, la duologie.
Une fois que Throne est mort, tout le monde veut prendre sa main.
Ah, c'est ça, ouais.
Non,
c'est
un roman passionnant.
C'est le spectre du passé, vision du futur.
Non, mais là où aussi on voyait des systèmes de camouflage, et ça m'a toujours marqué. C'est les Phantom Tie qui étaient utilisés dans le jeu vidéo des Ombres de l'Empire et peut-être effectivement aussi dans le roman, je sais pas, mais moi ça c'est un de mes grands souvenirs de l'UE quand je jouais aux Ombres de l'Empire Shadow of the Empire sur PC, et t'avais ces chasseurs Tie qui étaient à trois canons turbo laser et qui avaient des systèmes de camouflage, et je trouvais ça que c'était vraiment excellent, ça.
Moi, ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu. C'est mes premiers livres de l'UE, donc ça fait tellement longtemps. J'ai tellement de trucs à lire que j'ai jamais le temps de relire des vieux bouquins comme ça. Il y a certains livres Star Wars, j'ai envie de me remettre dedans, mais j'ai tellement de trucs à lire en temps normal que je ne peux pas.
Et donc, ce vaisseau furtif pour Anakin, il était fait simplement pour ravitailler Organa et non pas pour attaquer Trench, et donc comme d'habitude, sans pouvoir s'en douter, c'est un peu bateau, et ben il a décidé de ne pas écouter Obi-Wan et de foncer dans le tas, ce qui nous arrange bien par ailleurs, parce que c'est ce qui rend tout intéressant l'épisode.
Ah oui, ça,
et là on se tape une bataille spatiale, parce que finalement c'est un épisode entièrement spatial,
ouais.
De cache-cache, et qui est tout à fait excellent, avec une musique qui a été reprise de la trilogie Malevolence. Et vraiment, c'est assez rythmé, et c'est assez sympa. Moi, c'est pas un épisode qui est très très poussé scénaristiquement parlant, mais c'est un très bel épisode. Et pour moi, ça fait partie des épisodes les plus sympas, quoi.
Moi, c'est sûr.
À chaque fois que tu vois un épisode qui se passe entièrement dans l'espace, c'est vraiment sympa, mais c'est ce qu'il faudrait qu'il fasse plus dans cette série. Ça manque d'épisodes spatiaux et Star Wars, et ben c'est l'espace.
C'est les bah, justement. Justement, moi, c'est ce que j'aime le moins, les épisodes dans l'espace. Et j'étais sûr que toi, t'allais aimer.
Bah, en fait, t'as pas de goût, toi.
Mais je sais, mais encore une fois, on va pas être d'accord, mais moi, c'est pas les épisodes que je préfère. Là, concrètement, on voit que des mecs dans des vaisseaux. Bon, par contre, si c'est vrai, on a eu des plans, on voit l'ensemble des vaisseaux, il y a ce côté un peu tactique, quoi, mais sinon, moi, ces épisodes qui se passent que dans l'espace, je crains vachement, quoi.
Ah, j'adore. C'est comme ce qui se passait avec le Malevolence, ou alors ce qui se passait pour forcer le blocus sur Rylot, mais c'est des épisodes qui sont fabuleux, quoi.
Bon, ben, moi, c'est ceux que j'aime le... Enfin, j'aime... c'est pas ceux que je préfère, en tout cas, quoi. Parce que, justement, si tu veux, pour moi, là, le fait d'avoir les Jedi ou je sais pas, que ce soit des... n'importe quel élément supplémentaire qu'apporte Star Wars, pour moi, t'as pas le plus par rapport à ce moment-là où t'as regardé un Star Trek, tu vois, où t'as vraiment typiquement des trucs dans l'espace qui se passent.
Non, mais attends, deux secondes, regarde la trilogie, tu verras que la plupart du temps, ça se passe dans l'espace, hein.
C'est pas ce qui me plaît le plus, moi, dans la trilogie. Moi, les moments que je préfère, c'est chez Jabba ou dans la cantine de Mos Eisley.
Avec les Ewoks.
Non, j'adore les Ewoks.
Bah oui, mais ça, c'est pas la peine de le dire. On l'avait deviné.
En tout cas, c'est
si, là, je te jure.
En tout cas, dans l'épisode, c'est sûr que moi, mes personnages préférés se passent dans ce fameux vaisseau. D'ailleurs, ce qui m'a le plus intéressé, c'est justement cette ambiance un peu sous-marin américain.
Et d'ailleurs, je vous propose de replacer directement l'aspect visuel, puisqu'on en
d'accord,
parle.
Ça roule. Donc, on retourne dans ce vaisseau-là, donc avec, comme je disais, très sous-marin, avec le bruit des radars, les clones qui font silence pour faire croire qu'ils ne sont pas entendus, les torpilles qui se lancent devant, juste, il y a évidemment deux sorties exactement comme dans un sous-marin.
C'est très sobre comme vaisseau. Il y a juste une petite pointe de couleur rouge pour rappeler les couleurs de la République. Mais au-delà de ça, c'est un vaisseau, encore une fois, qui est très trilogique.
Ah oui, de toute façon, j'ai trouvé que tout l'épisode était très trilogie originale. L'ambiance,
ça fait vraiment plaisir, quoi.
Oui, ça, c'est sûr. Ça, c'était vraiment...
C'est une ambiance qui est vraiment sympa.
C'est vraiment un de mes épisodes préférés de la seconde saison, jusqu'à présent.
Vous avez remarqué, par ailleurs, les clones pilotes pour cette frégate. Ils ont une armure assez spéciale.
Tu parles du pilote ou ceux qui ont les oreilles un peu...
Non, les deux qui conduisent, tu veux dire, qui conduisent le vaisseau furtif.
Les pilotes, ils ressemblent vraiment aux... Enfin, leur armure ressemble à un prototype d'armure de pilote taille.
Ah oui. Ouais, donc tu parles bien de celui qui est en noir.
Voilà.
Avec son masque, là.
Exact, avec son espèce de tube...
Ça m'a fait penser un peu au masque à gaz au début.
Oui.
De toute façon, c'est vrai que je pense qu'il s'est aussi un peu inspiré des masques à gaz. De toute façon, Lucas pour les chats sortis, hein, enfin par les pilotes de chats sortis. Hein, je crois qu'il y avait quelque chose comme ça dans les bonus de la trilogie originale. Hein, on sait bien qu'il s'est un peu inspiré des guerres mondiales, donc enfin surtout de la Seconde Guerre. Donc je pense aussi qu'il y avait une.
Sinon,
vas-y.
La planète, donc Christophe VI, quand on la voit de l'extérieur, moi ça m'a fait penser à Coruscant, sauf qu'ils l'ont repeint en bleu, quoi.
Ouais, depuis le début, hein, de toute façon, elle ressemble un peu à Coruscant.
C'est une très belle planète, enfin le visuel est très agréable. Et là, ce qui était nouveau, c'est qu'on pouvait voir la lune de Christophe VI, qu'on connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Au début, je me suis dit, mais mince, en fait, c'est Christophe VI quand le soleil est face à la planète, quoi. Parce qu'on n'en avait jamais entendu parler de cette lune, hein. Même tu regardes les visuels qu'on a dans le film et tout, tu l'aperçois pas, hein.
Ben, peut-être parce que des fois il y a des lunes qui s'il fait jour on n'est pas forcément obligé de la voir, hein.
Et puis je trouve que le fond bleu en plus est super joli, quoi. Quand on voit tous les vaisseaux devant ce fond bleu, c'est assez chouette. Et la planète, ça fait un peu comme une luciole, je trouve. Je sais pas si vous voyez sur les côtés sur les bords de la planète, on voit des petits liserés bleus un peu fluo. Je trouve ça assez rigolo, quoi.
Mais en tout cas, moi, un truc qui m'a toujours gêné avec Christophe VI, c'est que j'ai jamais réussi à supporter l'architecture de la planète. Depuis le film, je ne sais pas, ça fait trop vert. Vert
sur la planète.
C'est
vert bleu, hein.
Non, mais je voulais dire à la fois vert dans le sens de couleur, mais vert aussi le vert comme un verre du vert.
Christophe VI qui fait penser à cristal.
Ouais, vous aussi, ouais. Ah oui, ça s'appelle bien Crystal City, hein, la capitale, je crois, si je me souviens bien.
Ouais. Mais ça me fait penser à... C'est issu de l'imagination féconde de nos scénaristes préférés. Ça, j'espère qu'ils n'ont pas été payés cher.
Mais c'est pas ça vient pas de Lucas.
Il n'empêche que ça te propose une alternative, tu sais, où ces grandes planètes monde un peu, enfin planètes ville, parce que s'ils avaient remis des bâtiments classiques comme Coruscant, bon, ça aurait été un peu un copier-coller. Que là, justement, ils ont adapté un petit peu parce que c'est typiquement une
planète. Ça dépend, mais ce qu'il y a, c'est que c'est un peu verrouillé parce que, comme tu dis, il y a déjà Coruscant. Et dans l'UE, il y a déjà aussi
Tarif. Narshada, sinon aussi.
Oui, il y a Narshada et Tarif qui sont deux planètes, qui sont des planètes mondes, mais qui sont différentes de Coruscant.
Pour les différencier,
tout se joue sur l'architecture, hein.
Et justement, c'est important de les différencier les unes des autres, parce que sinon, voilà, on va avoir l'impression à part dire qu'on est sur Christophe 6, c'est la même que Coruscant. C'est bien, moi, je trouve, de différencier. Et après, je suis d'accord que Coruscant est bien plus joli que Christophe 6, mais c'est bien pour ça que la plupart du temps, on est quand même sur Coruscant et non pas ici, quoi.
D'ailleurs, un truc qui m'a beaucoup plu, question visuelle...
Non, c'est pas pour ça, c'est uniquement parce que Coruscant, c'est le centre politique de la République.
Oui, mais si tu veux, c'est en même temps la plus belle planète à voir pour nous, donc c'est les choses qu'on vient.
Peut-être pour toi.
Oh, bah, comparer entre dans les planètes-villes, si tu veux, si tu dois considérer entre Narshada, Coruscant, Christophe 6, je ne sais quel encore,
Christophe 6, personnellement, je trouve qu'elle est magnifique, la planète. Je supporte pas trop les épisodes qui sont sur Christophe 6, mais les visuels sont vraiment magnifiques, quoi.
Moi, je préfère Coruscant, hein. C'est beaucoup plus riche, déjà.
Ah, c'est normal, Coruscant, on n'arrête pas de te la montrer.
Mais, et puis même, je trouve que les couleurs sont plutôt des couleurs chaudes sur Coruscant que sur Christophe 6, c'est plutôt des couleurs froides. Je trouve que l'ambiance est meilleure, du coup, sur Coruscant.
Sinon, ce que je voulais dire, c'est qu'au moins l'avantage dans cet épisode-là d'avoir un vaisseau furtif, c'est que ça nous a permis justement d'enlever ce vaisseau du premier plan, nous a permis aussi d'observer un peu plus les paysages spatiaux. On pouvait plus voir les vaisseaux ennemis, ce qui se passait dans les arrière-plans. Ça, j'ai vraiment bien aimé aussi ça.
Et là, pour le coup, il y en a un paquet des vaisseaux, quoi. Ouais. Donc, je trouve que c'est bien parce que souvent, on reproche à The Clone Wars son côté un peu guérilla au lieu d'être d'une vraie guerre. Là, pour le coup, vu la quantité de vaisseaux et les grosses batailles qui s'engendrent, là, au moins c'est bien.
On a le retour des croiseurs Providence, c'est-à-dire du type le main invisible utilisé par le général Grievous dans la revanche des Sith. Là, le croiseur Providence de Trench est appelé l'invincible. Et moi, ça m'a bien fait plaisir de enfin voir un Providence dans la flotte séparatiste. Il était temps, quoi. Et j'aimerais bien qu'ils réutilisent les autres frégates qu'ils avaient déjà utilisées, par exemple, lorsque Ifkos s'est fait capturer. Tu vois ce que je veux dire.
Le visuel de l'amiral Trench, alors, on en parle un petit peu?
Bah, parle-en, je t'en prie, mon petit.
Alors, perso, moi, je l'ai trouvé vachement bien foutu. D'ailleurs, ce qu'on disait, c'est que c'est dommage qu'on le réutilise pas. Alors, peut-être qu'on verra d'autres personnes de cette race dans les futurs épisodes. Mais là, je l'ai trouvé vraiment bien foutu. Bon, typiquement, il ressemble à une araignée, quoi, hein, mais, je trouve que le fait qu'il ait plusieurs yeux, etc., avec les bras, une espèce de morphologie un peu ronde, c'était assez bien foutu. Et même, je sais pas si vous avez remarqué, quand tous les yeux bougent en même temps, son expression est vraiment bien faite, quoi.
Moi, j'ai beaucoup aimé dans ce personnage-là, c'est sa façon de rajouter les petits bruits de mandibule de temps en temps quand il parle.
Ouais, ouais. Puis ça bouge en même temps, c'est...
Ouais, ça fait des petits bruits.
Ah, tu peux le refaire pour moi?
De toute façon, Louis, tu as droit à un bruitage par épisode. Tu vois, la semaine dernière, je t'avais fait...
T'as fait quoi? T'as fait...
Et là, voilà, je dis un par épisode. Là, faut que t'attendes la semaine prochaine.
Non, vas-y, fais-le.
Non. Écoute, faut savoir après, tu t'apprécieras même plus, tu vois, si je t'en fais.
Le croiseur que je voulais retrouver, c'était un croiseur léger de classe Recusant. Vous savez, celui qui a abordé le vaisseau de Ifkos avant de le capturer. Et ce croiseur qui est tout en longueur là, et qui est vraiment magnifique et qui est vraiment pas assez utilisé. Il est pas assez utilisé dans The Clone Wars, quoi. La plupart du temps, ce qu'on voit, c'est des petites frégates magnificentes avec des LH-300, 3210 modifiés.
Et sinon, l'amiral Trench, il a aussi son droïde tactique qui l'aide aussi.
Le problème, c'est qu'on n'en voyait aucun lors de la première saison. Ou alors
bah si, on envoie sur Rylot.
Ah oui, on
envoie. Ah ouais, non, si, attends, dire, on envoie, qu'est-ce que tu racontes?
Oui, mais je veux dire qu'on envoie vers la fin de la saison, mais, avant la fin de la saison, on voit Rylot, on n'envoyait pas de cette personne de cette.
Elle l'avait pas modélisé.
C'est lente ou quoi? Attends, je vais te les trouver.
Ah, je suis persuadé qu'on l'envoie pas avant la Rylot.
Ah, moi, pour moi, c'était sur Rylot, hein, la première fois qu'on les
donc
voyait.
Ça me fait bizarre de me dire, tiens, pourquoi tout d'un coup, on les revoit avant Christophe 6, alors que finalement, et... on les voit presque tout le temps dans la seconde saison depuis Rylot.
Et je pose une question.
Tout d'un coup, on apprend qu'ils existaient déjà lors de Christophe 6, donc je me suis dit, tiens.
D'habitude, ils étaient jaunes, tu sais, quand on est sur la Terre, et je me demande si là, le fait qu'ils soient rouges et gris, c'est pas lié au fait que ce soit des droïdes tactiques spéciales pour l'espace.
Et qu'est-ce qu'ils racontent comme conneries?
la couleur, écoute, je répète, la couleur n'est pas la même que d'habitude. D'habitude, ils étaient...
Non, mais c'est simplement parce que chacun des droïdes est personnalisé, ils ont leur propre système de pensée, c'est simplement ça. Hein.
D'ailleurs,
chaque droïde a son nom. Hein.
D'ailleurs, je me souviens, d'accord, à un moment, ils s'étaient amusés à nous montrer une image d'un ce droïde tactique sur Internet. Ils avaient dû s'amuser pour mettre l'image en ligne, parce qu'il lui avait modélisé une sorte de cravate. C'était vraiment, il y avait une cravate pile qui lui descendait au milieu du plastron.
Et alors?
Bah rien, c'est pour dire que c'était amusant.
Que c'était amusant d'avoir un droïde avec une cravate.
D'accord, je sais.
Bon, on va voir. Comme je t'ai pourri ton goût.
Je m'y attendais, de toute façon, hein.
Avec oui, toi, bah, avec toi dans le coin. Hein. Venir, hein.
Avec toi dans le coin, faut pas s'étonner non plus, hein.
Et donc, ces fameux droïdes, ce sont des droïdes tactiques de série T.
Ouais.
Pour ceux qui veulent savoir.
Ça, par contre, ça, on s'en fout.
Ah non, on s'en fout pas, parce qu'il y a toujours des fans hardcore et des mecs pas objectifs comme Thomas qui écoutent. Avez-vous d'autres choses à dire, cher Jean?
Oui, il y a un petit truc que j'ai oublié de noter, c'est qu'à un moment, justement, il y a Bail Organa qui dit « Aidez-nous, Obi-Wan Kenobi, vous êtes notre seul espoir. »
Ah mince, je l'ai pas
vu. Bah oui, j'ai pas pensé à la ressortir, ouais, effectivement. Quand je l'ai vu, je me suis dit bah, « C'est ce qu'on disait la dernière fois, à chaque, maintenant, quasiment dans tous les épisodes, ils doivent s'amuser à faire des répliques. »
Mais il y en avait moins dernièrement, si vous l'avez remarqué, il y en avait moins, mais depuis... Il y a eu déjà l'épisode précédent, on en avait noté une.
Ouais.
Et cette fois-ci, il est ressorti dans celui-là, je ne sais plus, faut que je revoie l'épisode prochain pour savoir si j'en ai mis un, mais je ne sais pas.
Celle-là, elle est quand même énorme, quoi, je veux dire.
Oui, ça, c'est sûr. Parce que, on peut dire que c'est génétique, ça a été repris par sa fille, un truc comme ça.
Ouais, si tu veux.
De quoi, Jar-Jar est une erreur génétique?
Toi, retourne dans ton trou.
D'accord. Bon, attends, je fais le bruit. Faisais ton mal.
Donc, tu es fan, hein. Tu es fan, si tu veux.
D'autres petites notes à dire, ou pas?
On peut passer. Bah moi, comme appelez le 700 par SMS et votez Candidou.
Ouais, d'ici là, que les gens écoutent notre émission, ça sera, la news aura disparu dans les lames de l'internet.
Hein. Non, allez sur SW, regardez la news licenciement, il y a un hommage fait à Thomas, super
et
bye.
Ben oui, parce qu'aujourd'hui, lors de l'émission, on est le 1er avril, et on n'a pas pensé à vous en faire un. J'avais envie de dire que c'est notre dernière, vous voulez qu'on dise que c'était notre dernière
j'aurais
émission.
On aurait pu parler de la série sur Cat Bane.
C'est un peu tombé à l'eau, je voulais dire que c'est notre dernière émission, qu'on en avait marre, que Clone Wars était tellement nul qu'on voulait faire,
arrête, faire grève. Ça pourrait arriver, hein.
Mais moi, si j'avais dit ça, on m'aurait pas cru aussi.
Ouais, non, mais tu sais, tu vas faire une émission tout seul, quoi.
Non, mais après tu pourrais plus te défouler, Louis, tu sais.
Bienvenue.
Tout ça, tu seras obligé de la garder pour toi.
Moi, bienvenue à moi-même. Aujourd'hui, nous allons faire une émission objective sur The Clone Wars.
Non, mais
là, vraiment personne n'aurait cru.
Un mec qu'on a marre de la vie, c'est un peu comme toi, qui râle après tout, puis comme ça on aurait
ah oui. J'ai beaucoup râlé d'ailleurs aujourd'hui. Hein.
Non, aujourd'hui, c'est pas parce que là aujourd'hui je sais pas.
Il est de bonne humeur en fait quand il râle. Ouais, oui.
Non, mais ça veut dire des fois il y a des épisodes qui ressemblent à quelque chose quoi.
Donc je pense qu'on peut passer à la conclusion finale. Là. Donc vas-y Louis.
Bon, un épisode qui était assez sympa, sans être exceptionnel, mais qui est assez équilibré et surtout à noter un épisode entièrement dans l'espace, ce qui fait que c'est intéressant. Encore des petites pointes trilogiques, et moi, c'est ce qui me plaît beaucoup, notamment sur les designs, sur les vaisseaux. Après, à chaque fois que ça se passe dans l'espace, au niveau visuel, c'est tout à fait exceptionnel. On a droit à des trucs assez sympas. Donc, c'est du bon. N'hésitez pas à le voir.
À toi, Louis. Thomas, pardon.
Alors...
S'il te plaît, nous menons.
Pas moi, je l'ai regardé qu'une fois, cet épisode. Alors que d'habitude, bon, je les regarde quand même au moins 15 fois. Hein, 4.
Et pourquoi, en plus, parce que je les regarde 4 fois, c'est ça le pire.
Parce que voilà, je l'ai trouvé un petit peu moins sympa que d'autres qu'il y a pu avoir dans cette saison 2. Parce que moi, ce qui se passe uniquement dans l'espace, ben, je sais pas, je trouve qu'il manque quelque chose, il manque la petite touche Star Wars en plus. Et voilà, mais bon, sinon, j'ai bien aimé le fait qu'il y ait l'amiral Trench, même si, paix à son âme, il a disparu. Et puis, j'ai vraiment halluciné de voir Bail Organa là en plein milieu. Bon.
Ouais, c'est vraiment un truc qui pourrit le groupe.
Ça a gêné tout le monde.
Vivement l'épisode de la semaine prochaine.
Donc, de mon côté, ben, j'ai vraiment bien apprécié cet épisode-là. Comme je le disais tout à l'heure, c'est facilement un de mes préférés pour l'instant de la saison 2. J'ai adoré l'ambiance dans...
À ce point-là?
Quoi?
À ce point-là?
Ah oui, j'ai vraiment bien...
Et la sauce sur le Genesis, t'en fais quoi?
Ouais, c'est ça.
Oui, ça c'est sûr. Mais j'ai dit un de mes épisodes préférés, j'ai pas dit l'épisode préféré.
Yaf, t'es enregistré, on pourra vérifier ce que tu dis.
Non, mais il faut dire que j'ai vraiment, comme la plupart de l'épisode se passe dans ce vaisseau aux ambiances sous-marines, j'ai vraiment été passionné par le suspense qu'ils nous ont donné dans cet épisode-là, lors de ces moments-là, lors les petits bruitages, l'ambiance très très
dit,
trilogie originelle.
Thomas a fait un bruitage.
Ouais, bon.
Je t'ai entendu faire Dark Vador là, vas-y refais-le là.
Alors ça c'était toi.
Et on brouille encore, hein, ça change pas.
Attends, hein. Amenez-lui sa mentoline là, à Louis, là, il va pas bien.
Non, moi je veux de la juvamine.
Il a dit du bien de The Clone Wars, c'est pour ça là, il est en train de nous faire une crise d'asthme.
Et toi, t'as dit du mal de The Clone Wars, t'as pas honte là? Il y a des filonies qui va rendre son contrat, sale traître, puant, on va.
Il a divorcé,
bon, ouais. Allez, je vais passer à ma conclusion avant que voilà. Ça dégénère. Donc, on peut
ça
préciser que c'est vendredi prochain que sera diffusé.
Tu parles pas.
L'épisode 217 sur Cartoon Network, Bounty Hunters, dont voici le synopsis. Anakin, Obi-Wan et Ahsoka vont former un partenariat improbable avec 4 chasseurs de primes pour aider des fermiers locaux à combattre Hondo Onaka et sa bande de pirates.
Ça pourrait être sympa, hein.
Spécial
hommage aux 7 samouraïs.
Rapidement, je voulais juste dire que comme moi je l'ai vu suite à la diffusion anglaise, que je n'avais pas vu de synopsis ni rien, j'ai vraiment été très très surpris par l'apparition de Honda. J'étais super content qu'il ait utilisé ce personnage. Oui, Honda.
Parce que Honda, c'est une marque de voiture.
J'étais très très surpris de revoir ce personnage, je m'y attendais vraiment pas du tout. Donc
merci
voilà.
Merci pour cette remarque.
Ben voilà, je leur dirai.
Donc je vous remercie d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, édition The Clone Wars. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, contactez-nous à l'adresse studio@swendirect.com. Vous pouvez également suivre nos faits et gestes sur Twitter et rejoindre le groupe Facebook. Ne manquez pas notre prochaine émission de l'édition The Clone Wars dans laquelle nous discuterons de l'épisode 217 Bounty Hunters. De la part de Thomas, Henry et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars.